Ok, alors est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin et de ce qu'on a vécu déjà ? Amen ? Ouais, ça faudrait un peu plus d'ampleur. Ah, c'est de... merci. Ok, alors moi je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je sais que Bruno avait annoncé ma prêche déjà il y a 15 jours. La grippe a eu raison de moi en fait à ce moment-là, mais c'est pas grave parce que je pense que toutes choses aussi sont conduites. Et vous allez voir que ce matin, de toute façon, on va être vraiment dans la continuité de ce que Bruno a déjà pu partager au travers de ses deux précédents messages. Et puis je remercie aussi le groupe Louange et les paroles qui ont pu être données, parce que va y avoir quelque chose qui va vraiment dans le sens de ce qu'on a pu déjà commencer à vivre ce matin. Alors peut-être pour commencer, je voudrais juste vous demander, est-ce que tout le monde me connaît bien ici ? Qui ne me connaît pas ou très peu ? Je vois un petit peu. Ok, Christian, tu mens. Je t'ai vu. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je vais juste, Bruno a commencé à introduire un peu qui j'étais, juste vous expliquer qui je suis. Donc voilà, ça va faire bientôt 2 ans, je pense que je suis à peu près sur Betsalel. Je m'appelle Mathieu Nocheski, j'ai eu 35 ans depuis hier, du coup. Voilà, merci, comme ça, ça s'est fait. Et dans la vie de tous les jours, voilà, je suis ce qu'on appelle un cadre de santé formateur, c'est-à-dire que j'ai été infirmier pendant plusieurs années. J'ai travaillé notamment en soins palliatifs et auprès de personnes âgées. Et puis depuis 2013, je suis cadre de santé, ça veut dire que je forme les futurs infirmiers et infirmières à leur métier. Puis à côté de ça, je travaille aussi pour des centres de soins à domicile où j'encadre des équipes d'infirmiers. Donc ça, c'est ma vie de tous les jours. Je suis aussi engagé avec le Seigneur depuis l'âge de 6 ans. Moi, j'ai vraiment eu la bénédiction de pouvoir naître dans une famille chrétienne et ça a impacté ma vie. Ça ne veut pas dire que tout a été parfait. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, loin de là. Je suis comme vous. J'ai aussi mes difficultés, mes tentations, mes périodes de moins bien. Mais en tout cas, voilà, depuis l'âge de 6 ans, j'essaie d'avancer avec le Seigneur. Et il m'a permis de découvrir un certain nombre de choses avec lui. Et ce matin, j'aimerais vous partager un contexte qui m'a vraiment mis à cœur et sur lequel j'ai vraiment mon esprit qui est travaillé depuis plusieurs mois, semaines, et le Seigneur m'a même parlé au cours de culte par rapport au moment où j'étais sur les cultes ici, pour vraiment du coup amener cette thématique. Et donc j'ai pas été très surpris quand Bruno m'a demandé de pouvoir prêcher et j'avais déjà mon thème. Alors j'ai fait exprès de pas mettre de titre parce que je compte un petit peu sur votre participation. Soyez pas choqués des images que vous allez voir, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément en accord avec les personnages que je veux afficher. Mais je vais vous montrer quelques personnages de fiction. Alors, je dis pas que je suis forcément en accord avec ces histoires, etc. C'est pas le but. J'aimerais que vous puissiez me dire, pour vous, quel est le point commun entre ces 4 personnages ? Ouais, des héros, ok. Des pouvoirs. Ah, il y a un côté sombre, ça m'intéresse. Ouais, quoi d'autre ? Il y a des fans de super-héros ici ? Ah, il y a quelque chose par rapport à l'enfance. Ok, ça m'intéresse. Les 4 personnages qu'on a là, ils sont tous orphelins. Eh ouais, Spider-Man, il a perdu ses parents. Dark Vador, il ne connaît pas son père. Et puis, il n'y a pas de... Sa maman, en fait, est morte, a été tuée. Batman, il a perdu ses 2 parents. Harry Potter aussi. Et vous avez parlé du côté sombre. Maintenant, je vais vous montrer des personnages historiques. C'est qui ?
Jules César.
Jules César. Napoléon. Staline. Bien, bien. Là, qui... Bon, c'est pas grave, il y a une petite déviance dans l'histoire pour certains, mais c'est pas grave. Et... Ah ouais, Adolf Hitler. Pas le personnage le plus glorieux, mais j'ai fait exprès de le mettre. Ces 4 personnages-là, j'ai aussi constaté, ce sont des personnages qui sont aussi orphelins. Quand on prend leur histoire, ces 4 personnes sont orphelins. Et si on donne des points communs à ces personnes, qu'est-ce que vous verriez dans leur vie ? Mégalo, ouais. Dictature, pouvoir. Violence, tout à fait. Et donc, je vous disais, ils sont tous orphelins. Et on retrouve des points communs chez ces personnages, avec des conséquences sur leur vie. On peut parler de vengeance, des notions de culpabilité. Quand on regarde les super-héros, même Harry Potter, là, ce sont des personnages qui ont une très forte culpabilité sur ce qui s'est passé. Le pouvoir, on en parlait juste avant, des personnages qui sont manipulateurs. Si vous prenez les 4 personnages qui sont historiques, voilà, c'est des personnes qui ont vraiment mené des choses avec un côté dark face, côté sombre. Un sentiment d'insécurité aussi, tous ces personnages historiques juste avant que j'ai montré, des personnages qui craignaient énormément pour leur vie, qui étaient énormément dans une volonté aussi de contrôle. Une certaine soif de justice, parce que même si on reprend le contexte de Staline, Napoléon, de même Hitler, je n'excuse nullement ce qu'ils ont fait. Et même par rapport à Hitler, moi j'ai un contexte où je suis juif, ma grand-mère a été cachée pendant la guerre, donc c'est quelque chose qui me parle d'autant plus. Mais quand on regarde le début de leur histoire, la volonté qu'ils avaient, c'était une certaine soif de justice et d'équité pour leur pays. Et des personnes qui ont été fortement isolées, même si on regarde les super-héros ou même dans les histoires d'Harry Potter, ce sont des personnages qui vivent de manière très isolée, qui ont du mal à faire confiance aux autres et à pouvoir trouver de l'appui autour d'eux dans leur contexte social. Alors ce matin, j'ai envie de vous parler, moi, de la notion du cœur d'orphelin. Et là, je vous ai montré des personnages qui ont perdu leurs parents, mais je vais vous montrer que ce matin, la notion du cœur d'orphelin ne concerne pas le fait que d'avoir la perte, on va dire, physique d'un parent, mais que c'est quelque chose qui peut concerner tout à chacun. Et ma volonté, ce n'est pas juste de m'arrêter sur ça, ce serait bien triste, mais c'est de vous amener à pouvoir considérer le cœur de fils et de filles adoptés par le père. Alors, le terme orphelin, il faut savoir qu'il n'est quand même pas anodin dans la Bible parce qu'on l'utilise plus d'une quarantaine de fois. On monte même quasiment à 50 fois suivant les versions qu'on peut lire. La racine hébraïque, alors ne me demandez pas de la nommer, hein, je ne suis pas un bilingue en hébreu ancien. La racine hébraïque, en tout cas quand on s'y intéresse, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne mentionne pas que le fait d'être sans père, elle mentionne également le fait d'être seul. La notion de l'isolement, on la retrouve dans cette racine hébraïque. Et ce que je vais vous partager ce matin, c'est que le fait d'être orphelin, ça ne s'applique pas qu'au fait d'être un enfant et d'avoir perdu ses enfants, mais ça peut également s'appliquer à toute personne adulte qui vit avec une notion de cœur et d'esprit d'orphelin. Et vous verrez que dans ce que j'ai pu montrer des personnages, on retrouve des liens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette notion de cœur d'orphelin, ce n'est pas quelque chose à laquelle Dieu nous appelle, j'y viendrai plus tard dans mon message, mais c'est vraiment un contexte qui va bloquer notre entrée dans notre véritable identité, dans l'identité à laquelle nous appelle le Père Céleste. Alors pour commencer du coup sur le contexte biblique, j'aimerais pouvoir lire avec vous un texte qu'on appelle aussi comme étant le premier meurtre de l'humanité. Ce n'est pas forcément le texte le plus réjouissant, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le cœur de la personne qui est concernée dans ce texte. Alors c'est dans Genèse 4, versets 1 à 16. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devient enceinte et elle met au monde Caïn. Puis elle dit, « Avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. » Elle met aussi au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devient berger et Caïn cultive la terre. À la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes du champ. Il les offre au Seigneur. De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau et il offre au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande. Mais il ne reçoit pas Caïn ni son offrande. C'est pourquoi Caïn est très en colère, son visage devient sombre de tristesse. Le Seigneur dit à Caïn, « Tu es en colère et ton visage est triste, pourquoi ? Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte, il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. » Caïn dit à son frère Abel, « Sortons. » Dehors dans les champs, Caïn se jette sur son frère Abel et il le tue. Alors le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répond, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Le Seigneur continue, « Qu'est-ce que tu as fait là ? J'entends la voix du sang de ton frère. Dans le sol, elle crie vers moi pour demander vengeance. Le sol s'est ouvert pour recevoir le sang de ton frère que tu as tué. Eh bien maintenant, ce sol te maudit. Quand tu le cultiveras, il ne te donnera plus ses richesses. Tu iras toujours d'un endroit à un autre et tu ne pourras jamais t'arrêter sur la terre. Caïn dit au Seigneur, « Ma punition est trop lourde à porter. Aujourd'hui, tu me chasses d'une bonne terre. Je vais être obligé de me cacher loin de toi. J'irai toujours d'un endroit à un autre. Je ne pourrai jamais m'arrêter sur la terre et celui qui me trouvera pourra me tuer. » Le Seigneur répond à Caïn, « Mais non, si quelqu'un te tue, il faudra tuer 7 personnes pour que tu sois vengé. » Et le Seigneur met une marque sur Caïn, alors celui qui le rencontrera ne pourra pas le tuer. Alors, je vais revenir sur la première partie. Vous voyez que j'ai surligné un certain nombre de choses. Et c'est pour vous montrer un petit peu tout le contexte du cœur d'orphelin de Caïn. On a en premier la notion de ce que dit Ève, parce que Caïn, c'est le fils d'Adam et Ève. Mais est-ce que vous voyez à un moment donné Adam dans cette histoire ? Où est Adam ? On n'a pas la notion d'un père proche, on a plutôt l'impression que Adam est absent dans cette situation. Et d'ailleurs, Ève le dit, hein, elle ne dit pas « nous avons donné la vie », c'est « j'ai donné la vie ». J'ai donné la vie. Donc, pas de notion du père. Ensuite, on a un contexte qui m'intéresse, c'est le contexte avec la partie de l'offrande. L'offrande était là pour honorer Dieu, pour se présenter devant lui. C'est une forme un peu de louange aussi, hein, d'adoration. Et quand on lit le texte, moi, ce qui m'a interpellé, vous prenez plusieurs versions, et c'est toujours à chaque fois un petit peu la même chose. Il est bien dit « le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande ». Il ne dit pas « il reçoit avec plaisir son offrande et Abel ». Non, il regarde d'abord au cœur de la personne. Et quand on a la suite du texte, mais il ne reçoit pas Caïn, ni son offrande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu avait perçu dans le cœur de Caïn qu'il y avait quelque chose qui n'était pas fondé et ancré en lui, qui ne lui rendait pas pleinement gloire. L'offrande de Caïn, c'était quelque chose comme un petit peu d'obligé que se faisait Caïn, mais qui n'était pas avec un vrai cœur d'adorateur. Et on voit ensuite hein, que le cœur de Caïn a quelque chose de profondément ancré en lui, avec de la colère, de la tristesse, il devient sombre. Et là, on retrouve des notions avec les personnages que j'ai pu vous présenter au début. Pourtant, Caïn ne manquait pas de ses deux parents, ils étaient bien présents. Et Dieu l'interpelle, il lui donne une opportunité. Il lui dit, tu as l'occasion de pouvoir reconnaître ton péché, de reconnaître et de changer ce qui ne va pas. Mais fais attention parce que si tu ne changes pas, à un moment donné, le péché va surgir. Caïn n'écoute pas et l'événement dramatique se produit. Il tue son frère, probablement sous le coup d'une colère profonde. Ce n'est pas terminé parce que Dieu l'interpelle, il a vu ce qui s'est passé. Dieu a presque ça d'humoristique, c'est que quand même il lui demande où est ton frère, alors que Dieu sait très bien ce qui s'est passé. Mais il redonne à nouveau une possibilité à Caïn de pouvoir revenir à lui et de demander pardon. Mais Caïn est dans le déni et dans le mensonge à un moment donné. Je ne sais pas, je ne suis pas responsable de mon frère. Et à la suite, Dieu lui dit et lui révèle, il lui dit, j'ai vu, la terre présente le sang de ton frère. Et d'ailleurs, la conséquence que Dieu amène sur la vie de Caïn, c'est que Caïn était un cultivateur et que donc la terre ne lui rendra plus le produit qu'il cultivait. Et qu'est-ce qui se passe, Caïn, au lieu de se repentir à nouveau, eh bien, il est dans une notion, ma punition est trop lourde, je vais être obligé de me cacher loin de toi, tu te rends compte de ce que tu me fais, si j'interprète un petit peu entre les lignes. Il y a un côté très position de victime, finalement, dans cette situation, position de manipulation aussi. C'est de dire à Dieu, non mais tu te rends compte, c'est trop fort ce que tu me fais là, c'est injuste. Pour autant, il y a un côté que je trouve bon dans ce texte, c'est que le Seigneur, en fait, malgré tout, reste attaché à Caïn et a quand même la bonté, en fait, à un moment donné, de lui proposer sa protection. Le texte finit quand même en disant que Caïn s'en va, en fait, à un moment donné, hein, loin du Seigneur, en fait. Alors, dans ce texte, dans ce que je viens de dire, pas de présence d'Adam, un état de cœur qui ne rend pas gloire à Dieu. Caïn ne supporte pas le rejet, ne voit pas Dieu comme un père aimant et bon. Dieu l'alerte, mais aucune écoute de Caïn derrière et il ne change pas. On a de la dissimulation, du mensonge, de la fuite aussi par rapport à son comportement de victime. Dieu responsabilise Caïn par rapport à ses conséquences. Dieu, il essaye d'avoir une relation avec nous qui soit d'adulte à adulte. Ce n'est pas un manipulateur, Dieu, avec nous. Alors, l'origine du cœur d'orphelin. Mais l'origine, elle remonte, un peu comme l'avait déjà exposé Bruno dans ses messages précédents, à des dysfonctionnements dans l'amour familial, dans l'amour paternel, parental, maternel. Qu'est-ce qui peut se passer ? Ça peut être multiple. On peut avoir un problème de présence équilibrée d'un père, d'une mère, avec de l'absence, de la distance, un amour qui n'est pas correctement transmis, une tendance à décourager la personne, à trop exigeant, à être inadapté dans sa relation avec lui, à être passif, injuste, à ne pas défendre l'enfant, à avoir du rejet, des abus qui peuvent être de différents types. Ça peut être des abus psychiques, voire même physiques. En tout cas, tout ceci provoque des conséquences physiques, psychiques et spirituelles. Et peut-être qu'on n'est pas tous avec une histoire d'enfant extrêmement malheureuse avec de l'abus, mais ça arrive. Et puis, une enfance parfaite, Bruno l'exprimait aussi dans ses messages, ça n'existe pas. On peut être un enfant heureux, avoir des parents plutôt équilibrés, mais malgré tout, il y a toujours certains dysfonctionnements qui persistent. Parfois, ce n'est pas du tout volontaire de la part des parents, puisqu'on a un phénomène aussi de transmission et d'héritage, hein, de génération en génération qui se passe. On peut avoir, quand vous regardez un petit peu d'un point de vue plus accompagnement psychologique, moi je l'ai déjà vécu dans mon travail, on retrouve chez des gens des phénomènes qui existaient déjà dans les générations précédentes, avec les abus par exemple. Un père qui était violent, eh bien, on a parfois une répercussion dans la génération suivante, ou au contraire, on va avoir quelqu'un qui a pu vivre cette situation de manipulation d'abus, puis qui dans sa vie va être beaucoup plus dans une position de victime, qui ne va jamais réussir à pleinement aboutir dans une position pleine et entière d'adulte. Là, je vous parle sur un plan psychologique, mais ça a même des répercussions sur l'aspect physique, des personnes qui ne peuvent vraiment pas prendre soin d'elles, de par ces notions. Et puis, la conséquence spirituelle, elle est aussi très présente. Et là, elle nous concerne finalement un petit peu tous, vous le verrez. Alors, les conséquences, c'est les manifestations du cœur d'orphelin. Eh bien, on a la notion d'une mauvaise estime de soi. Ça peut être des gens qui, à un moment donné, du coup, vont tenter de dissimuler leur véritable identité physiquement, psychiquement, émotionnellement, qui auront de grandes difficultés à pouvoir partager et exprimer leurs sentiments. Ça peut être aussi des gens qui, à un moment donné, essayent de ne pas se montrer, vont avoir une tenue physique ou voilà, essayer d'être le plus discret possible. Ou au contraire, être dans une forme vraiment interpellante et exubérante. C'est des gens qui peuvent avoir une notion de comportement de rejet, voire d'agressivité. Ça, on le retrouve chez K1. Le sentiment de rejet, on le retrouve aussi dans les personnages, à un moment donné, Harry Potter, hein, dans les histoires, pour ceux qui ont déjà vu peut-être les films. C'est quelqu'un qui est vraiment très torturé et qui a une forte notion de rejet, même à rejeter les amis qu'il peut avoir autour de lui à certains moments. Chez les personnages historiques, le comportement d'agressivité, de violence, il est très présent dans tous ceux que je vous ai cités. Et donc, c'est des gens qui vont avoir une forme de colère, une insoumission, une problématique avec l'autorité. Moi, c'est quelque chose que je vois même dans mon travail avec les étudiants. Dernièrement, j'ai une étudiante que j'ai repris juste pour un comportement très simple. Elle n'avait pas donné de justificatif d'absence. Et dans la formation que je suis, le texte de loi officiel demande un justificatif d'absence. Donc j'ai juste repris, je l'ai reçu dans mon bureau, et je lui explique, ben voilà, il me faudrait votre justificatif. Et l'étudiante, elle a explosé, mais vraiment de manière à quasiment m'insulter, en fait. Et bon, c'est une jeune fille hein, qui doit avoir 18-19 ans, et on retrouve énormément de notions que j'ai pu vous présenter là. C'est quelqu'un qui est très mal à l'aise avec son physique, qui a une tenue vestimentaire qui est toujours très interpellante, qui ne sait pas trop situer, qui, dès qu'elle est dans la relation avec certaines personnes, a des difficultés à exprimer ses émotions, à les vivre, tout ça. Et donc, elle a exposé deux fois avec moi, et puis parce que j'ai dû la convoquer du coup vers le directeur, elle a eu le même type de comportement. Et malheureusement pour elle, il y a eu des conséquences disciplinaires, et malgré tout, elle est revenue vers moi, elle m'a demandé pardon, en fait. Et j'ai vu un tout autre état de cœur, et j'ai eu l'occasion, alors je n'ai pas le droit, moi, de témoigner directement à mes étudiants sur le principe de laïcité, mais en tout cas, j'ai pu avoir une discussion avec elle pour l'interpeller sur son état de cœur. Tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui nous entoure aussi quotidiennement. Le sentiment de solitude, de tristesse, d'insécurité, de peur, de honte par moment aussi. Et on va avoir des gens qui vont avoir des difficultés, soit être dans la manipulation, à vouloir également contrôler, des relations sociales complexes, et des gens qui ont du mal à se donner, entre guillemets, pour les autres, qui par contre vont vouloir parfois du coup utiliser les ressources chez les autres. Des addictions, bah oui, parce que quand vous avez de la peur, de la sécurité, à un moment donné, on essaye de trouver des éléments qui nous permettent de faire diminuer notre anxiété, de se retrouver rassuré, on essaye de se raccrocher à quelque chose. Ce qui est certain, c'est que la mentalité d'orphelin, elle ne mène nullement à une vie, elle paralyse. Les besoins profonds de la personne ne sont pas comblés. La mentalité d'orphelin ne permet pas d'entrer et de vivre une véritable relation avec Dieu comme un père aimant et bon. Et c'est là aussi où ça nous concerne tous, vous allez voir. L'orphelin ultime, c'est Satan. Il a fait le choix à un moment donné de ne plus vivre en la présence du Père. C'était quand même l'ange responsable de toute la partie de louange et d'adoration. Et il a fait le choix, en fait, de sortir et de maintenir cet état. Même sa volonté, j'irai jusque-là, c'est de pouvoir nous maintenir dans l'état d'un cœur d'orphelin.
et son but ultime, parce qu'à un moment donné, on peut très bien avoir fait son premier chemin, je dirais, de conversion avec le Seigneur, mais on peut toujours avoir des traces, un petit peu des choses qui restent dans notre cœur sur cette notion de cœur d'orphelin. Et à un moment donné, Satan, lui, ça lui plaît bien de pouvoir nous maintenir dans ça, parce qu'il sait qu'on ne va pas rentrer pleinement dans un vécu de notre vie avec Jésus comme un Seigneur, à vivre et à développer sur cette terre la culture du royaume de Dieu. Et tout ça, ça remonte à bien loin, ça remonte à la notion du jardin d'Éden. À partir du jardin d'Éden, finalement, on a été tous orphelins, en tout cas spirituellement parlant. Parce que dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui se passait ? On avait Dieu qui était en relation intime avec Adam et Ève. Ils étaient dans un cadre privilégié, un cadre de vie tel que Dieu l'appelait, l'avait prévu pour chacun d'entre nous. Et il y a eu le péché qui s'est immiscé. Vous vous souvenez, l'histoire du fruit, du serpent, etc. Le péché s'est immiscé, ça a provoqué une rupture dans la relation avec le cœur du Père. À partir de là, finalement, on est tous orphelins spirituellement à la base. Alors c'est un peu petit, je vais juste passer vite fait, parce que je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir vous le mettre en plus grand, parce que je l'ai récupéré d'un autre document. Par contre, c'est quelque chose que je peux très bien communiquer pour que ça soit envoyé par mail. Ça, c'est juste un petit tableau qui nous montre un petit peu le cœur d'orphelin, comment il s'exprime, et ce à quoi Dieu nous appelle réellement. Le cœur d'orphelin a tendance à voir Dieu comme étant un maître, quelqu'un qui impose, qui décide, alors que le cœur d'adoption tel que Dieu le veut, c'est de le voir comme un père aimant et bon. Je ne vais pas prendre tous les points, mais je vais en prendre certains. Dans la notion de sécurité, le cœur d'orphelin vit avec un grand manque de paix, ce sentiment de crainte très présent. Le cœur d'adopté vit vraiment dans le repos et dans la paix. Si je prends la notion du désir d'accès à la pureté, le cœur d'orphelin a l'impression qu'il doit faire des efforts pour être saint, pour être pur devant Dieu, et que c'est ces efforts qui vont l'amener à ça. Alors que dans le cœur d'adoption, notre désir, c'est de vouloir être saint et que rien n'entrave notre relation d'intimité avec le Père. Dans la notion d'image de soi, j'en parlais, le cœur d'orphelin va se rejeter soi-même du fait qu'il se compare aussi aux autres et qu'il a du mal à trouver sa place. Alors quand dans le cœur d'adoption, vous avez une image de vous qui est positive, sûre, parce que vous ne doutez nullement de la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. La suite du tableau, du coup, dans la relation avec les autres, le cœur d'orphelin a du mal à développer une relation d'adulte à adulte avec les autres. Alors que dans le cœur d'adopté, vous avez une attitude humble qui est capable de se réjouir même du succès et des bénédictions que les autres peuvent avoir. Face à l'autorité, le cœur adopté honore l'autorité, il la respecte, il considère les serviteurs de Dieu comme des gens qui vont contribuer à sa vie, l'aider à grandir, à évoluer. Le cœur d'orphelin voit toujours l'autorité avec une certaine souffrance, un manque de soumission. Dans la perception de la présence de Dieu, le cœur d'orphelin a parfois l'impression qu'elle est distante, qu'elle est difficile à atteindre. Alors que le cœur adopté, lui, développe cette notion proche et intime de Dieu, se sent vraiment libre avec lui. Et se sent du coup comme un fils et une fille du Père. Dans la notion d'avenir, il y a le fait que finalement le cœur d'orphelin a toujours l'impression de devoir se battre, d'avoir des difficultés à atteindre les choses, que ce soit pour sa vie sociale, professionnelle. Alors que le cœur d'adopté libère pleinement notre héritage céleste, l'héritage du royaume. Le plan de Dieu le Père pour chacun d'entre nous, c'est que chacun soit sauvé, libéré et vive éternellement. Que chacun d'entre nous puisse pleinement entrer dans son identité de fils, de fille, dans son héritage. Il nous appelle vraiment à une vie avec une relation intime, authentique avec lui, où sa bonté et sa paix se manifestent pleinement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de situation plus complexe, simplement la manière de les aborder et de les vivre se fait en pleine paix, en pleine confiance, sans peur, sans crainte, sans honte, sans mensonge, en pleine vérité. L'objectif ultime pour notre vie, ce à quoi Dieu nous appelle, c'est de lui rendre pleinement gloire et de pouvoir vivre ici-bas les valeurs de son royaume. Et pour ça, j'ai repris trois passages. Le premier, c'est dans les psaumes 68, versets 6 et 7. Dans sa maison très sainte, Dieu est un père pour les orphelins, un défenseur pour les veuves. Dieu donne une famille à ceux qui sont seuls, il libère les prisonniers. On pourrait dire aussi libère les orphelins. Mais ceux qui refusent de lui obéir restent sur une terre sèche. On retrouve le contexte de Caïn derrière. Dans Romains 8, versets 14 à 16, « En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet Esprit, nous crions vers lui en lui disant « Abba, Père ». L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage, nous sommes enfants de Dieu. Et j'ai repris d'autres traductions qui étaient intéressantes, où on retrouve des contextes complémentaires à un moment donné. Il y a notamment une traduction anglaise qui m'a intéressée, qui s'appelle The Patient Translation. Désolé pour l'accent si ce n'est pas bon. Je me tourne vers nos deux anciens de Grande-Bretagne. Qui dit « Vous n'avez pas reçu l'esprit du devoir religieux vous ramenant à la peur de ne jamais être assez bon. Mais vous avez reçu l'esprit de pleine acceptation, de pleine adoption, vous enveloppant dans la famille de Dieu. » J'aime bien ce terme, vous enveloppant. « Et vous ne vous sentirez jamais orphelin, car à mesure qu'il se lève en nous, nos esprits se joignent à lui pour dire les paroles d'une tendre affection. Père bien-aimé, vous êtes l'enfant chéri de Dieu. » Et un dernier texte, c'est dans Galates 4, 1 à 9. Voici ce que je pense, c'est Paul qui parle. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Ça, c'est un peu notre position aussi d'enfant spirituel, de ne pas être rentré encore pleinement dans la considération de vivre Jésus comme Seigneur. Pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout, mais il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui et de ses affaires jusqu'au jour fixé par son père. Pour nous, c'est la même chose. Avant, nous étions comme des enfants, nous étions esclaves des forces du monde. Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. Il est venu pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi et pour faire de nous des enfants de Dieu. Oui, vous êtes vraiment ses enfants. La preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui nous fait dire « Abba, Père ». Donc, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave, mais un enfant de Dieu. Et comme tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il garde pour ses enfants. J'aime bien dans ce texte les notions de liberté. Le cœur d'orphelin, moi j'ai bien aimé me le représenter d'une certaine manière. Par moments, quand on rencontre Dieu, Dieu nous permet de couper certaines chaînes, mais parfois il reste autour de nos poignets. Même si les chaînes entre les deux menottes ont été brisées, il reste quand même parfois les menottes. Il y a toute une étape où Dieu nous appelle à vivre une pleine liberté en lui. Le plan de Dieu, son plan parfait, c'est le sacrifice de Jésus, son Fils à la croix, pour rétablir un lien entre nous et lui. Ça passe par l'étape de la grâce, qui est un don, c'est le pardon de nos péchés, le salut, il est gratuit, on n'a rien à payer, juste à dire, Jésus, je t'accepte dans nos cœurs, dans mon cœur, je te demande pardon pour mes péchés. Et là, on rentre dans cette étape de vivre Jésus comme notre sauveur et de vivre l'évangile aussi du salut. L'entrée dans notre véritable identité en Christ, c'est un choix de notre part. C'est une étape supplémentaire où il y a une décision complémentaire à prendre. C'est le fait de vivre Jésus comme Seigneur. Bruno parlait l'autre fois du fait d'entrer dans l'étape de devenir disciple, de passer par les eaux du baptême. Et là, dans cette étape, Dieu nous appelle à vivre son royaume, à vivre l'évangile du royaume. Il nous appelle dans cette étape à une responsabilité aussi individuelle. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui vous manipule, vous n'êtes pas un robot entre ses mains, un programme auquel il donnerait des ordres et qui devrait les exécuter. Et j'aime bien ce passage d'Apocalypse, moi, qui m'a fortement interpellé quand je préparais ce message, qui dit « Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. » Dans ce passage, il n'est jamais dit « Je me tiens à la porte, je frappe, je l'ouvre et j'entre. » C'est à chacun d'entre nous de faire la démarche à un moment donné, d'être à l'écoute du Saint-Esprit, de ce qu'il nous dit et de dire « Ok Seigneur, viens. Je suis prêt à ce qu'il y ait du changement, viens éclairer dans ma vie ce qui me maintient encore, ce qui est encore comme un lien dans ma vie. » Comment sortir de la mentalité et du cœur d'orphelin? J'arrive bientôt sur la fin de mon message. Avant tout, il faut identifier et reconnaître. Identifier, il y a les petits outils que je vous ai donnés. Le tableau, je pourrais le partager s'il y en a qui le souhaitent. Vous pouvez faire un petit exercice tout simple. C'est entre les deux colonnes. Essayez de vous situer entre une note sur -5 à +5. Tout ce qui est en dessous de zéro, bah, c'est plus du côté du cœur d'orphelin. Et tout ce qui est du côté du plus, c'est du côté du cœur adopté. Soyez très honnêtes. Je pense qu'on aurait tous envie d'avoir des plus 5 dans la colonne de droite. Mais est-ce qu'on en a réellement ces plus 5 dans toute la colonne de droite? Et encore parce que je n'ai pas passé en détail toutes les colonnes de ce tableau. Donc identifier, reconnaître, se positionner pour progresser et non rester en victime. Et là, c'est l'appel à la responsabilisation, à votre engagement de la part de Dieu. Il y a des gens qui ont énormément de difficultés à pouvoir entrer dans cette responsabilisation. La repentance, ah ouais, ça c'est une étape qui n'est pas forcément évidente. La repentance, à un moment donné, c'est accepter et dire à Dieu qu'on veut changer sa façon de penser, de vivre. Ok, vous n'êtes peut-être pas responsable de tout ce qui s'est vécu. Par contre, vous avez quand même une responsabilité, c'est que dans votre évolution de vie, eh ben les mensonges qui se sont implantés, et on en a parlé pendant le temps de louange et dans les paroles que Bruno partageait, les mensonges et les murs qui se sont construits dans nos vies, à un moment donné, mais on est responsable aussi de les avoir laissés ou de les laisser en place. Et donc, à un moment donné, c'est dire à Dieu, écoute, ok, je reconnais, dans ma vie, il y a un mur par rapport à la honte, il y a un mur par rapport à la peur, et je te demande pardon d'avoir laissé ce mur s'établir dans ma vie et de ne pas l'avoir vu auparavant. Pardonner les figures d'autorité, ça peut être vos parents, ça peut être des personnes qui ont eu des notions d'autorité sur vous. Pardonner, ça ne signifie pas excuser, ça ne signifie pas oublier, ça ne signifie pas valider ce qui a été fait. Pardonner, c'est libérer. C'est vous libérer de l'influence à un moment donné qu'ont eu ces figures d'autorité. Peut-être que ce n'était pas volontaire aussi de la part de ces figures d'autorité. Je ne dis pas que tous les parents sont malveillants, loin de là. Parfois, c'est vraiment un contexte d'héritage, une maladresse. Je ne pense pas qu'il y ait de parents parfaits. Moi, je ne suis pas encore parent, mais je me mets déjà dans la tête que le jour où je le serai, je pense que je ferai des erreurs. Et puis, une fois que cette notion est établie, recevez l'amour du Père. Demandez-lui de vous révéler profondément, intimement, dans votre vie, son amour. Dieu est bon, et si vous lui demandez avec un cœur véritablement sincère, moi, j'en ai fait l'expérience, hein, même dans mon avancée de vie. Hein, j'ai retrouvé à un moment donné des petites notions dans ma vie qui correspondaient à la gauche de ce tableau. Et quand vous demandez sincèrement à Dieu, que vous passez par ces étapes, il y a une vraie libération qui s'instaure en vous, une véritable paix. Puis quelques petits conseils, alors peut-être issus de mon expérience et puis de l'expérience de d'autres que je connais qui ont déjà vécu ces notions-là. Ne vous isolez pas. L'isolement, c'est une caractéristique justement du cœur de l'orphelin. Trouvez quelqu'un de confiance. Ça peut être un ami, quelqu'un qui est fermement ancré dans la foi et qui a déjà de l'expérience. Ça peut être également dans les petits groupes. C'est l'occasion de pouvoir vivre, je pense, aussi ce type d'accompagnement. Saisissez-vous des vérités de la parole de Dieu et déclarez-les vraiment pour votre vie. Prenez-les comme des promesses qui ne sont pas juste des promesses qui s'accompliront peut-être un jour, mais c'est des promesses qui vont vraiment s'accomplir dans votre vie. J'en ai donné quelques-unes, mais il y en a bien d'autres. Priez, louez et adorez. On en a suffisamment parlé. C'est là où il y a du lien avec ce qui se vivait ce matin pendant le temps de louange que Geoffrey a conduit et après ce que Bruno a pu partager au cours de ce temps et à la fin. Vous êtes ce que vous adorez dans votre vie. Vous êtes ce que vous adorez. Et malheureusement, parfois, finalement, on peut aussi adorer un petit peu son esprit d'orphelin, son esprit de victime. C'est bien, finalement, je reste un petit peu dans cette notion où je n'ai pas d'engagement à prendre. Donc, prier, louer, adorer. Vous pouvez aller chercher des playlists sur Spotify, YouTube. Vous avez des CD qui existent, qui ont des très bons chants. On en chante certains. Je ne suis plus esclave de la peur, Abba Père. Accepter aussi le cheminement que ça implique de rentrer dans cette démarche en faisant confiance à Dieu, à son amour et sa bonté. Le cheminement que ça implique, ça peut impliquer une transformation bien sûr spirituelle, mais la transformation a peut-être besoin aussi d'être accompagnée psychologiquement. On a, je regarde Jean-Luc, mais je pense que dans la formation LL, c'est des choses qu'on aborde. Ça peut être aussi des transformations physiques liées. Peut-être qu'il y a besoin d'avoir l'avis de certains experts médicaux, j'en sais rien, diététiciens, de personnes qui ont plus un impact sur le contexte physique, kiné, ostéo, tout ça. Dieu ne nous a pas créés comme étant des petits tiroirs, en une entité vraiment pleine, globale devant lui, corps, âme et esprit. Et il nous appelle à être responsabilisés sur votre corps, sur votre âme et sur votre esprit. Alors pour résumer, et j'en terminerai là avant de pouvoir vous proposer un petit temps de réflexion. L'esprit d'orphelin, c'est un mal dans notre monde actuel auquel chacun d'entre nous n'est pas appelé, hein, soyez-en convaincus, mais qui est très présent autour de nous. Je lisais l'ouvrage d'un auteur américain qui s'appelle Danny Silk et qui, lui, identifie même, c'est quelqu'un qui fait de l'accompagnement à Bethel, sur l'église de Bethel à Reading. Il était, dans son ouvrage, il expliquait même que pour lui, le cœur d'orphelin, c'est une des maladies les plus profondément ancrées dans notre monde. Et que Dieu nous appelle chacun d'entre nous à nous en libérer, mais aussi à être capable d'accompagner et d'accueillir les personnes qui sont sous cet état d'esprit d'orphelin. Dieu a envoyé son unique Fils pour que nous soyons pardonnés, sauvés, rachetés, et pour que nous ayons directement, à nouveau, accès à lui dans une relation père-fils-fille, véritable, bonne, authentique, proche. Et chacun d'entre nous peut décider de répondre à l'appel du Père et d'être libéré de cet état d'esprit d'orphelin et d'entrer dans sa véritable identité d'enfant de Dieu. Alors, j'ai terminé pour ma partie de partage. Je veux vous proposer juste de prendre quelques minutes, 2-3 minutes de réflexion personnelle. Peut-être vous avez été interpellé, peut-être il y a des choses qui vous ont parlé, peut-être que ça parle aussi pour certains de vos proches. Prenez le temps, voilà, de vous placer devant Dieu. Il y a un chant qui va débuter juste après, vous aurez les paroles. Ça s'intitule en anglais « Reckless Love », c'est « Amour immense ». Et ne vous inquiétez pas, le chant est en français, j'ai pris une version traduite. Prenez le temps, voilà, de réfléchir et je vous prendrai un petit temps de prière juste après le chant.
Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite. Mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais. trop sombre et mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches.
Aucune ombre, aucun mur ne peut résister, parce que le Père nous aime et Dieu nous cherche. Vous voulez que je vous dise un truc que je vais vous confesser, parce que je connais bien mon cœur et je connais votre cœur en général, et je peux vous dire une chose. C'est que l'esprit d'orphelin gangrène nos vies. Il gangrène les relations hommes-femmes dans les couples. Il gangrène nos relations professionnelles. Il gangrène nos relations familiales. Il pourrit les relations dans le corps de Christ. C'est une réalité, une vraie réalité. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Je pourrais vous dresser une liste de situations que j'ai vécues en tant qu'homme et aussi en tant que chrétien et en tant que pasteur sur des situations et que je vis encore aujourd'hui parce que l'esprit d'orphelin qui est tenu par Satan gangrène les relations. Et lorsque Dieu nous parle tel qu'il nous parle ce matin, et lorsqu'il nous montre, il veut nous révéler notre problème, comme il l'a fait pour Caïn, parce que autant, tous autant que nous sommes comme Caïn, gangrénés par cet esprit d'orphelin. Et je crois que nous avons un travail à faire. Et nous avons une responsabilité. Souvenez-vous, ce matin, il nous a été nous avons été interpellés par le fait que nous devons prendre nos responsabilités et entrer dans quelque chose. Et donc, j'ai demandé pendant le message à Doriane, elle va envoyer la liste. Voilà. Et on va mesurer les choses. Je ne vous dis pas, faites-le si vous en avez envie. Je vous dis, moi, le jour où j'ai un cancer, et j'espère ne jamais en avoir, mais le jour où j'en ai un, je vais voir le toubib. Et je lui dis, Toubib, tu fais tout ce qu'il faut pour tuer la bête. Autrement dit, s'il me dit, oh, tu sais, je ne sais pas, ça, tu vas faire de la chimio, mais tu vas voir, tu vas être malade, donc je ne vais pas te la faire. Je vais lui dire, moi, je veux être guéri. Donc, si ici, nous avons un outil entre les mains, qui est un outil puissant, à la fois, il y a l'IRM qui est la liste des choses, qui va révéler dans notre cœur des choses. Si nous, nous commençons par distinguer l'esprit d'orphelin, là où ça nous perturbe, et puis que derrière, on a des armes qui sont aller voir un frère ou une sœur, la confession de nos péchés, la prière, l'efficacité de la parole de Dieu proclamée, tout ça, ce sont un peu, c'est le traitement thérapeutique à cet esprit d'orphelin, alors nous allons voir de véritables guérisons. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous le dis parce que je vous aime, mais aussi un peu par intérêt. Je vous expliquer. Parce que le jour où on va rentrer pleinement dans cette dimension de la guérison de l'esprit d'orphelin, vous allez voir mon travail pastoral diminuer par 10, par 20, par 30 et peut-être par 100. Parce que les gens seront guéris en réalité de leur véritable maladie. Et souvent, on appelle les pasteurs ou les anciens, ou on va voir les uns et les autres, parce qu'en réalité, on nous dit « j'ai mal à cet endroit-là ». Mais en réalité, on ne va pas creuser assez profondément dans la blessure qui nous fait mal, qui est cet esprit d'orphelin. Donc si je le fais, je le confesse aussi avec un peu par intérêt. Mais je le fais aussi par amour pour vous. Parce que je ne m'imagine pas un père ou quelqu'un qui a autorité, quelqu'un qui aime dire ben, « c'est pas grave, il est malade, qu'il reste malade ». Je vois la maladie dans mon cœur encore et je vois la maladie dans votre cœur. Et ça, ça doit changer. Nous avons là tout un programme. Donc ça va vous être envoyé. S'il vous plaît, faites-le. Je vous le demande de tout mon cœur, vraiment. Faites ce travail. Et si vous n'arrivez pas à le faire, demandez à quelqu'un de le faire. Faites-le en couple. Vous allez voir. Il y a des choses qui vont être révélées. Faites-le, s'il vous plaît. Parce que là, il y a une clé pour enfin permettre à une église d'entrer pleinement dans les valeurs du royaume. Parce que l'esprit d'orphelin, Matthieu nous l'a dit, ça nous empêche d'entrer pleinement dans les valeurs, dans la dimension du royaume de Dieu. Oh Père, si ton peuple pouvait écouter cela. Et comme c'est Matthieu qui a prêché, et moi j'étais interpellé, je veux dire, dès que Dorian a envoyé le truc, je le fais avec Maryse cette semaine. On va se prendre une soirée à deux et on va le faire. Et je suis même prêt à venir confesser devant vous ce que Dieu a révélé. Parce que je veux être guéri de cet esprit d'orphelin. Et je veux que cette église soit guérie de cet esprit d'orphelin. Je te laisse prier, Matthieu.
Oui, Père, je veux te remercier avant tout pour ta bonté, Seigneur. Parce que chacune des personnes qui est ici, tu l'as voulu, Seigneur, tu la connaissais déjà avant qu'elle naisse. Merci, Père, parce que tu es souverain sur tout ce que nous pouvons avoir vécu, tout ce que nous pouvons vivre, Seigneur. Je te prie pour les cœurs de chacune des personnes qui se sentent interpellées ce matin, Seigneur. Et comme tu le dis dans ta parole, bien que nous, voilà, que nous puissions venir ouvrir la porte et te laisser pleinement entrer, venir nous interpeller, examiner nos cœurs, Seigneur. Je te prie d'aider à identifier, à révéler les dysfonctionnements qui sont présents, les mensonges qui ont été construits dans les villes, les murs, Seigneur. Et ce matin, c'est l'occasion de pouvoir commencer à casser ce mur, à créer une percée. Alors je te prie de pouvoir commencer le travail dans les cœurs, Père, de tous ceux qui sont interpellés par ce temps de partage, par ce qu'on peut voir au travers de ce que provoque l'esprit d'orphelin. Père, nous prenons vraiment position avec toi pour que cet esprit d'orphelin soit détruit dans les vies et soit complètement chassé, Seigneur. Que ce qu'il y a à mettre en œuvre pour qu'il parte, pour qu'il y ait la guérison réelle, eh bien, puisse être mis en œuvre et puisse être libéré dans les vies. Je te prie pour une totale libération, Seigneur, dans les cœurs, une totale libération dans les esprits, une totale libération dans les corps, Père. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta patience envers nous. Que chacune, Seigneur, des personnes qui sont ici ce matin puisse véritablement expérimenter, vivre cette relation intime, authentique d'amour avec toi, qu'ils puissent te rencontrer comme un père, Seigneur, tel que tu l'as prévu. Que nous puissions dans nos vies te rendre pleinement gloire et pouvoir être des vecteurs, Seigneur, de ton royaume ici-bas. Merci, papa. Amen.